Vous écoutez
RMC. RMC, la une des grandes gueules du sport.
Je veux juste une dernière danse.
Novak Djokovic écrit une nouvelle page de l'histoire de ce sport. 7e victoire à Wimbledon en 8 finales. 21e titre du Grand Chelem.
C'est fini! Novak Djokovic! Il n'exulte même pas! Il défie du regard les spectateurs du Châtrier! Mais le 19e est là! C'est gagné pour Carlos Alcaraz à l'issue du final parfaitement maîtrisé! C'est gagnant, c'est fini! Novak Djokovic tombe! L'impensable s'est produit à Melbourne!
C'est Novak Djokovic qui sort de ce tableau de l'US Open 2024! Il n'y a plus de patron dans ce tableau masculin!
Pour ceux qui ne le sauraient pas, a GOAT, c'est ça! Et pour ceux qui ne le sauraient pas encore, the GOAT, c'est différent! Et ça ressemble plutôt à ça!
Et Novak Djokovic réalise l'exploit! Insensé, il jouera pour un 25e majeur. Incroyable, incroyable.
Une dernière danse. Oh, peut-être pas la dernière d'ailleurs. On est le 1er février 2026. Notez bien ce jour, vous les passionnés de sport. On se souviendra peut-être dans quelques années ce que nous faisions lors de la finale entre Djokovic et Alcaraz à l'Open d'Australie. C'est à suivre dès 9h30 avec nous sur RMC. D'un côté, l'Espagnol, 22 ans, peut devenir le plus jeune joueur à remporter les 4 tournois du Grand Chelem en carrière. C'est le seul majeur qui lui manque. De l'autre côté, un joueur qui a 16 ans de plus, le recordman de titres en Grand Chelem en quête d'un 25e sacre, un 11e à l'Open d'Australie où il n'a jamais perdu en finale, une légende qui aura 39 ans en mai, battu par les cannibales Alcaraz et Sinner depuis 2 ans dans les majeurs. On pensait qu'il avait fait son temps. C'était avant qu'il obtienne le scalp de l'Italien en demi-finale au terme d'un match iconique. Reste à gravir l'Everest une seconde fois aujourd'hui. Les GG, je vous pose la question ce matin. Où nous avons rendez-vous avec la légende. Oui ou non, si Djokovic gagne, est-ce que ce sera le plus grand exploit en tennis de tous les temps? Sarah Pitkowski.
Je me positionne sur le oui. Parce que ce titre-là, au-delà de ce titre-là, il continue la collection des records qu'il détient par rapport à tous les autres joueurs de tennis de l'ère moderne.
Jérôme Pinault.
Non.
Fred Le Canu.
À 38 ans, oui.
On vous attend au 32-16 et au WhatsApp, évidemment, 06-12-424-424 pour participer. Eric Salio, le chanceux, notre voix du tennis et notre envoyé spécial en Australie. Et il est avec nous en direct. Salut Eric.
Bonsoir les amis.
Salut.
Bon, raconte-nous Melbourne ce matin, tout simplement. On imagine que c'est toute la planète tennis qui se prépare là à un match pas comme les autres. J'ai vu qu'il y avait même Rafa qui était sur place.
Oui, Rafa, il est là depuis 2 jours, puisque bon, on va dire que c'est contractuel, hein, avec une marque de voiture, mais il a fait une petite apparition sur la Kia Arena il y a quelques minutes. Non, mais on sent toute l'excitation. Moi, je suis venu au stade très tôt parce que à midi, il y avait la finale des juniors, mais c'est vrai que ça monte. Alors, j'ai quand même une petite retenue, c'est la météo. Elle est pas extraordinaire, il fait frisquer, il y a du vent, et au moment où je vous parle, je sais même pas si on va jouer en conditions plein air ou alors si les organisateurs vont décider de fermer le toit.
C'est important.
Donc ça, c'est une vraie question. Bon, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour les joueurs, ça veut dire beaucoup, hein, et surtout pour Novak Djokovic, qui est un garçon qui a beaucoup d'expérience. Donc, on va surveiller ça. Mais ouais, les places, c'est guichet fermé, bien sûr. Hier encore, on pouvait tenter d'acheter des places à 3 000 ou 5 000 dollars australiens, ce qui est monumental. Mais non, il n'y a plus de place de libre. Il y a des gens qui ont acheté des tickets annexes, comme on dit, parce qu'ici à Melbourne, il y a de la place, il y a beaucoup d'écrans géants, il y a des chaises longues, il y a des poufs, donc vous pouvez vraiment savourer l'événement plutôt que dans un canapé. Donc non, ça va être gigantesque, ça va être gigantesque.
Ça va être gigantesque. Tu restes avec nous pour le débat. On va rien rater, évidemment, aussi de l'entrée des joueurs dans quelques instants maintenant, hein, dans un quart d'heure pour l'arrivée des deux gladiateurs, Djokovic et Alcaraz, sur la Rod Laver Arena. Sarah, tu dis oui, si Djoko gagne, ce sera le plus grand exploit de l'histoire du tennis?
Oui, parce que Fred le disait aussi à 38 ans. Alors c'est pas tant l'âge, c'est finalement sa dernière finale de Grand Chelem remonte à Wimbledon 2024 contre un certain Carlos Alcaraz, et on sait que sur cette dernière année et demie, il dépassait pas les demi des Grand Chelem. On sentait que ça descendait un petit peu. Il est obligé de choisir ses tournois, et quand on voit la domination et puis la qualité tennis d'Alcaraz et Sinner qui sont en train d'écraser le circuit, on voyait pas comment Djokovic, qui s'acharnait à dire qu'il voulait continuer, qu'il puisse encore être à la hauteur. Et donc, si déjà la victoire face à Sinner est un véritable exploit, s'il le fait aujourd'hui, au-delà du 25e titre, ce joueur coche tous les records possibles et inimaginables du tennis masculin. Il aura remporté les 16 titres les plus prestigieux du tennis, que ce soit les Grands Chelem, les Masters, les Masters 1000. Mais il a l'or olympique, il a la Coupe Davis, il a passé le plus grand nombre de semaines numéro 1 mondial, et il a fini 8 fois numéro 1 mondial à la fin de l'année.
Donc en fait, il a tout et plus que tout. En fait, il réinvente l'idée de la légende. Quoi.
Donc tu peux me
bouleverser l'histoire du tennis s'il gagne aujourd'hui.
Mais Jérôme, t'es évidemment à fond pour vivre cette finale, j'imagine, mais tu penses pas que ce sera forcément le plus grand exploit ? Pourquoi, Jérôme ?
Je suis à fond pour vivre cette finale, évidemment, mais... Non, c'est pour moi pas le plus grand exploit du tennis. Pourquoi ? Parce que je suis pas un grand spécialiste tennis, et pour moi les exploits viennent de plus loin. Non mais OK, la régularité de Djokovic, si tu veux, c'est moi je compare ça au plus grand, c'est-à-dire que si Pogacar gagne 7 tours puis il arrête d'en gagner parce que un autre arrive et le bat, il revient gagner, c'est pas le plus grand exploit, c'est
la longévité au plus haut niveau
c'est s'inscrire encore un peu plus dans la légende, mais c'est plus un exploit de gagner un grand chelem pour un mec à tout gagner.
Non, je peux, moi, tu veux dire quoi? Ça reste Djokovic. Il faut pas oublier que ça reste Djokovic qui était en demi-finale de tous les grands chelems.
C'est ça. Il est les vrais exploits. C'est par exemple quand Alcaraz gagne son premier tournoi à 20 ans quand il le bat en finale.
Là, c'est une surprise pour toi.
C'est plus une surprise pour moi. Ouais. Mais regarde, quelqu'un qui vient loin, c'est Raducanu qui gagne en 2021 l'US Open. Tu vois, ça vient loin. Personne l'attend. Elle gagne tout. Là, c'est un exploit.
Mais justement,
l'exploit, il est pas dans le. Lui, c'est la longévité. Ok.
Mais moi, justement, c'est ça. C'est ça qui est un exploit. Regarde, pour aller dans le sens de Sarah, 38 ans, c'est-à-dire que justement tout le monde le connaît. Donc de gagner quand tout le monde te connaît, tout le monde a les fiches, tout le monde sait comment tu vas jouer, tout le monde t'attend. Déjà, ça veut dire que c'est extrêmement difficile. C'est un exploit comme Chang, par exemple, qui gagne Roland-Garros à 17 ans. C'est vrai que c'est un exploit, mais à 38 ans, où tout le monde t'attend, t'as une pression de dingue, il y a tout un système derrière toi, et surtout, je me rappelle, Sarah, ici, t'avais dit, Roland Garros, il a caressé le sol, Djokovic, on sent que c'est la fin, c'est terminé.
Moi, j'étais
un peu de ses partisans de dire qu'on le reverra l'année d'après. Tu vois, 38 ans, franchement, c'est quelque chose d'exceptionnel.
Cette endurance
de réussite.
Oui. On l'a vu venir.
On avait dit, c'est maintenant.
C'est maintenant.
Il y a deux forfaits.
Il n'a pas joué demain.
Ça, c'est vrai.
Il arrive là.
Contre Musetti en quart.
Il a un peu choisi ses horaires pour jouer aussi. On n'a pas trop tiré sur le moteur. On a fait jouer à l'ombre et pas trop au chaud. C'est pas un exploit, c'est préparé. S'il gagne Roland Garros, c'est un exploit. S'il gagne, fabuleux, c'est une légende de ce sport.
Pour toi, Nadal et ses 14 titres à Roland Garros, c'est plus un exploit.
C'est pas un exploit non plus. L'exploit, il est pas là. C'est la légende.
C'est la légende.
L'exploit, il est pas là.
Tu avais du mauvais pied. T'es descendu de quel côté de tennis ce matin?
On est sur la définition des mots.
Nous, on suit le sport de très près. Mais tu vas aujourd'hui voir du public. Tu leur dis, Djokovic est en finale du tournoi de l'Open d'Australie. Ouais. C'est normal, en fait. Les gens, ils ont trois mecs en tête dans le tennis aujourd'hui.
Alors voilà, j'attendais cet argument-là, Sarah. Ça veut dire que là, Jérôme va nous dire, oui, mais en fait, en face, c'est pas si fort.
Finalement,
il n'a que deux à battre. J'ai battu un, il a fait la moitié du chemin.
Dans l'esprit des gens, de voir Djokovic en finale d'un grand chelem, c'est pas un exploit.
Je sais pas. Ce matin, tu regardes dans le monde entier. J'ai regardé en Amérique du Sud, aux États-Unis, même dans des conférences de presse. Même les joueurs du 15 de France hier ont été interrogés là-dessus. Alcaraz ou Djokovic, tout le monde est halluciné de le voir là. Et ça fait parler la terre entière qui est un peu stupéfaite de voir Djoko là, alors qu'il est en train de sortir de son vestiaire et qu'on se rapproche de l'entrée dans quelques instants. Fred, quand on a préparé l'émission, tu voulais comparer ça avec avec Teddy Riner qui arrive à durer dans le temps.
C'est l'endurance finalement. De performance. Ouais. Moi, c'est ça.
C'est un exploit, une performance hors norme, ça.
Et tu vois, sans faire de polémique aucune, mais quand on a parlé aussi ici de retour des Sir Williams, par exemple, qui font pour moi plus de buzz que de performance, et j'en suis désolé de te le dire. Pour moi, là, c'est ce qui m'impressionne, comme Teddy Riner, c'est l'endurance de performance. Parce qu'une compétition, elle est faite pour être gagnée. Alors, je suis d'accord avec toi, Jérôme, le parcours, il est quand même particulier. Il y a deux trous dans la raquette. Il arrive en demi, il est juteux parce que justement, il n'a pas eu ces matchs-là qu'on aurait pu. Voilà. Mais ça fait partie du personnage et ça fait partie du parcours. Et moi, ce qui m'impressionne vraiment, c'est 38 ans d'avoir encore cette volonté, d'avoir encore cette niaque, d'avoir encore cette capacité de gagner, en fait. C'est ça qui m'impressionne.
Tu peux l'avoir, mais il faut aussi impliquer une vie. Qui est d'asset pour pouvoir tenir cette cadence-là, parce que dans le tennis c'est un sport où tu sais quand est-ce que tu commences, je te dis que c'est un mec qui rentre dans la légende,
mais la longévité,
depuis son premier titre à l'Open d'Australie en 2008, ce type n'a fait que travailler pour rester performant.
Tu vois, c'est là aussi le parallèle avec Boisson par exemple, ou avec Chang, ou avec des exploits de jeunesse.
Non, on va pas comparer Boisson à Djokovic.
Non, mais sur le côté, effectivement, exploit. Je te parle de l'exploit. Bar et y arriver.
Voilà, il y a eu un exploit aussi de ce côté-là. Mais ce que je veux te dire, c'est que c'est plus facile pour moi de faire ce type d'exploit, de sortir de nulle part quand t'es pas connu et quand t'as la folie de ta jeunesse et que t'es pas attendu. Alors que
Djokovic, très ponctuel parfois aussi.
Oui, voilà, ça m'impressionne moins, si tu veux, que là, cette capacité d'avoir travaillé, entraîné, préparé, industrialisé.
Tiens, sur WhatsApp, Antoine, au 06 12 424 424, parce que la question du plus grand exploit en tennis de tous les temps, c'est aussi le jeu de la comparaison. À quoi est-ce qu'on peut le comparer? On peut le comparer peut-être à la première fois où Nadal avait battu Federer à Wimbledon. Souvenez-vous, en 5-7, il commençait à faire nuit sur le Center Court, qui était pas encore éclairé à cette époque-là. Et Antoine te pose cette question, Sarah, en quoi Djokovic qui gagnerait aujourd'hui, ce serait un plus grand exploit que Federer qui gagne en Australie en 2017 après 6 mois sans jouer? On se rappelle de l'émotion de Federer face à Nadal en larmes après avoir gagné.
Effectivement, on est de la même acabit sur le match isolé, en fait, sur le match isolé. Mais quand tu reprends l'histoire, la victoire de Federer installe un peu plus Federer comme le plus grand des plus grands. Mais là, en fait, il l'installe dans des records qui, à terme, je sais même pas s'ils pourront être battus. C'est comme les 14 titres de Nadal. Est-ce qu'ils seront battus? Les 25 titres du Grand Chelem, est-ce qu'ils seront battus? Quand tu vois qu'Alcaraz te dit qu'aujourd'hui il joue, mais il sait pas s'il a envie de jouer aussi longtemps. Donc en fait, c'est ça, c'est que ces records qu'il a décrochés sur la longévité, il y a très peu de chances que ces records soient battus.
On revient dans quelques instants avec vous pour en parler. Si Djokovic gagne, est-ce que ce sera le plus grand exploit en tennis de tous les temps? Peut-être que c'est le mot exploit qui pose problème. Est-ce qu'on peut parler peut-être la plus belle histoire de l'histoire du tennis, dans ce que ça raconterait justement de cette faculté d'un champion de 38 ans à être capable de battre deux générations, à ne jamais être la bête noire de personne finalement. En tout cas, lui n'a pas de bête noire, c'est plutôt ça. Lui, la bête noire de tout le monde, en fait, Djokovic. On arrive dans un instant avec vous sur WhatsApp. On va retrouver voir Eric Salio, également l'Open d'Australie, pour ne rien rater de l'entrée des joueurs. 9h30 sur RMC, la seule radio sur place à l'Open d'Australie, le seul endroit où vous pouvez vivre l'histoire ce matin du tennis. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quirino.
En avant pour l'histoire, dans quelques instants sur la Rod Laver Arena, Novak Djokovic, à la poursuite d'un 25e sacre en Grand Chelem, à 38 ans, va affronter Carlos Alcaraz, 22 ans. Cette finale est déjà complètement irréelle, et on en parle ensemble ce matin avec Sarah Pitkowski, avec Fred Le Canu, avec Jérôme Pinault et RMC, et la seule radio française en direct sur place depuis Melbourne. D'abord, je vous rappelle on va vivre tout ça en fil rouge dans l'émission. Et puis aujourd'hui, événement dans les grandes gueules du sport, vous pouvez remporter vos places pour assister au match d'ouverture du tournoi des 6 nations France-Irlande. C'est ce jeudi au Stade de France à 21h. On vous propose de vivre l'expérience RMC. Avant le match, vous assistez à la dernière heure du Super Moscato Show. C'est très bien. Puis direction le Stade de France pour assister au match avec la personne de votre choix. On vous rajoute le maillot du 15 de France dédicacé par les Bleus. Donc là, c'est vraiment un package incroyable. Dès que vous entendez ceci, bah là, il faudra se réveiller, pas comme tout le monde ce matin. Vous aurez 5 minutes pour envoyer rugby au 7-32-16. Rugby au 7-32-16. Vos places pour France-Irlande se gagnent uniquement sur RMC, si Djokovic gagne, est-ce que ce sera le plus grand exploit de l'histoire du tennis? Tiens, j'ai Manu qui m'envoie un message sur le WhatsApp 06 12 424 424. Jérôme, il me dit, si Bernard Hinault gagne le Tour de France aujourd'hui en battant Pogacar et Vingegaard, ce sera un exploit.
Ah là, ce sera un exploit. Le blaireau.
Non, mais c'est vrai, quoi, on pourrait comparer avec quoi en fait? C'est comme si Froome était resté au niveau et aujourd'hui il serait encore capable de taper Pogacar et Vingegaard. Mais bon.
Ça fait ça, ouais, ça fait ouais, un peu ouais. Ça, sans, en sachant qu'il n'y a pas eu de blessures, de trous pour Djoko.
Et c'est ça, en fait.
Il n'a pas eu.
C'est pas comme Nadal,
il a fait des saisons.
Justement, je nous disais qu'on allait revenir. Il a eu des moments extrêmement compliqués, pas que physiquement, c'est émotionnellement. C'est une blessure. Mais non, c'est pas rien. Il y a eu des moments.
C'est rien, je dis, c'est une carrière. Des hauts et des bas.
Mais Djokovic,
quand tu fais du long, t'as forcément pas toujours le même état d'esprit, la même mentalité, t'as des hauts, t'as des bas. Quand ça dure longtemps.
On est d'accord, la carrière de Djokovic n'a pas été un long fleuve tranquille.
Non. Djokovic, interrogé par Eric Salio, qui est sur place et qu'on va retrouver dans un instant pour vivre l'entrée des joueurs, pour parler de cette finale historique. On l'écoute.
L'histoire est en jeu pour nous deux à chaque fois qu'on s'affronte. C'est une finale de Grand Chelem, il y a forcément beaucoup de choses en jeu. Je l'ai battu l'an dernier ici dans un match éprouvant. On verra à quel point nous sommes tous les deux capables d'être frais, mais il a 15-16 ans de moins que moi. Biologiquement, je pense que ça va être un peu plus facile pour lui de récupérer. Mais oui, j'ai hâte. Je joue au tennis pour atteindre la finale des Grand Chelem, me voilà, donc je ne peux rien dire. J'essaye juste de profiter du moment. Pour moi, cette demi-finale, c'est une victoire qui équivaut presque à gagner un grand chelem.
Eric Salio, c'est toi qui as interrogé Novak Djokovic. Tu nous disais que c'était à 3h30 du matin, dans la nuit de vendredi à samedi, après sa victoire en demi-finale face à Sinner. Tu le sens comment à l'approche de cette finale historique? Est-ce que la pression est sur lui ou sur Alcaraz finalement? Eric,
je pense que c'est une bonne question. Je pense que il sait mettre la pression sur l'adversaire. Alors vous savez, hier vous parliez des caméras là.
Ouais.
Je viens de découvrir un truc puisque sur nos écrans de contrôle sur la Rod Laver Arena, on voit les salles d'échauffement et Carlos Alcaraz porte un strap à la cuisse gauche.
Ah.
Donc ça prouve qu'il est pas sorti totalement intact et on s'en doutait hein, de sa demi-finale face à Sacha Zverev. Je rappelle qu'elle a duré 5h27 et qu'elle s'était déroulée en plein cagnard. Non,
ouais, en journée en tout cas.
C'était en journée, voilà. Mm. Alors que Novak Djokovic, lui, avait la night session. Donc ça, c'est un élément important. Mais Djoko, j'ai trouvé très déterminé, ultra concentré. Il a fait son warm-up seulement une heure avant l'entrée sur le court, Sarah. C'est pas traditionnel. Je pense qu'il a peut-être changé un peu ses habitudes pour arriver vraiment chaud, ultra chaud. Là, il procède vraiment aux derniers échauffements avec son équipe et l'entrée sur le court, elle est imminente, bien sûr. Et on vient de voir Rafa Nadal s'installer en tribune présidentielle. C'est peut-être lui qui va remettre le trophée à Novak Djokovic. Et là, ça aurait de la gueule, non?
Si il le met à Alcaraz, ça aurait de la gueule aussi.
Exactement.
Et si tu le donnes à toi, Eric, ce serait irrationnel.
j'ai une question, Eric, pour que tu puisses vraiment nous transmettre des émotions. Parce que, tu vois, paradoxalement, autant je suis hyper admiratif de Djokovic à 38 ans, autant au niveau de l'affect, ça aurait été Nadal, ça aurait été Federer. Peut-être que j'aurais eu plus d'émotions, peut-être que je les aime un peu plus, ces gens-là. J'ai peut-être un peu plus d'affect.
C'est l'attachement à Djokovic.
La question que je te pose, Eric, c'est comment se jouent les émotions à l'intérieur? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a du pour Djoko ou du contre? Est-ce que les gens sont émus ou est-ce que c'est juste la dimension sportive qui les branche? Comment tu sens le truc?
Que disent les spectateurs à Melbourne?
Moi j'ai pas assisté à l'intégralité du match sur le court vendredi, mais sur le peu que j'ai vu avec Sinner, il y avait une forte émotion Djokovic. On voyait que les gens souhaitaient qu'il détrône l'Italien, et il y a beaucoup de supporters serbes ici en Australie. Alors ils ont pas tous des tickets sur le central parce que c'est fallait s'y prendre tôt et puis c'est pas donné, mais il y a une atmosphère particulière autour de Djokovic. Il est soutenu comme jamais, et je pense qu'il a de toute façon il a une aura naturelle, ce mec. C'est dingue, il y a même pas à tergiverser, quoi. C'est on le voit dans ses conférences de presse, ouais, à 3h du matin, ce qu'il dit à la presse internationale, alors qu'il a qu'une envie, c'est d'aller au lit. C'est quand même réfléchi, c'est quand même c'est pensé, quoi. Et je pense qu'il met aussi une petite pression sur Alcaraz. Maintenant, on lâche les fauves. Hein. Je peux en dire plus. Moi, j'en sais rien.
On ne sait plus.
Mais non, on sait plus.
C'est ce qu'a créé Djokovic.
Ce qui est sûr, c'est qu'il est, moi, j'ai le sentiment qu'il est prêt à mourir entre guillemets sur le court, parce que ce match-là, c'est le match d'une vie pour lui.
Natacha Saint-Pierre et Pascal Obispo, si on devait mourir demain. C'était la référence musicale, je pense, que vous lui donnez. Salio. Tiens, Charles, sur WhatsApp, 06-12-424-424, me dit, non, ce serait pas le plus grand exploit du tennis, pour Djokovic. Non, ce serait le plus grand exploit de tennis de loin. Personne ne le revoyait gagner en Grand Chelem. On croyait tous à sa tournée d'adieu cette année. Encore moins en battant Sinner Alcaraz dans le même tournoi. N'oubliez pas que ce serait 11 victoires en 11 finales à l'Open d'Australie. Bien sûr, on l'a dit, tout à l'heure. Et c'est ça aussi qui rajouterait le perfect de Djoko en Australie.
Le public en Australie, son attachement avec ce public australien vient aussi de ses titres et de ce record qu'il détient. On en parlait hier. Parmi les trois, Djokovic
même a toujours été... Même si l'oration était trouble aussi avec notamment l'histoire du vaccin. Hein,
oui,
souvenez-vous,
avec cet Open d'Australie en 2022, effectivement. Mais au-delà de cette année 2022, il a toujours été adulé. Alors que dans les autres grands chelems, il a toujours été à la recherche de l'amour d'un public et il avait toujours les deux devant qui prenaient plus d'attention, plus l'amour et il cherchait et il l'a pas obtenu. Et puis à un moment, il s'est dit bon, je vais arrêter d'aller chercher quelque chose que je peux pas obtenir. Je resterai le méchant des trois et je vais jouer là-dessus.
Tiens, un allié pour Jérôme Pinault. Xavier nous appelle au 32-16. Salut Xavier.
Ça Salut les GG.
Eh ben écoute, Xavier, on est ravis de t'accueillir ce matin dans des grandes gueules du sport un peu spéciales. Évidemment, on bouscule le programme pour vivre en intégralité pratiquement cette finale entre Alcaraz et Djokovic. On va parler des autres sports aussi, mais on aura toujours un regard sur cette finale. Pour toi, ce serait pas un exploit si Djoko gagne aujourd'hui ?
Alors, un exploit,
pas le plus grand.
Pas le plus grand, quoi, parce que je crois, si je ne m'abuse, qu'il n'a pas eu une quinzaine complète au niveau des affrontements, qu'il y a eu...
Je te confirme, il manque 2 matchs, 4 heures de moins pour Alcaraz.
Voilà, c'est ça. Donc déjà, ça, pour moi, ça minimise un petit peu les choses. Je pense que s'il avait fait ses matchs, eh bien, il n'aurait pas pu tenir les 5-7 face à Sinner. Et puis, je crois me souvenir, si je ne m'abuse, que Roger, c'est à 39 ans qui score le dernier majeur. Oui. Donc,
mais Djoko à 39 ans dans quelques mois, c'est pareil.
Ouais. C'était à 37. Hein.
C'était à 37, plus ou moins la même chose. Ouais.
Mais ce serait un exploit, mais pas le plus grand exploit. Il aurait eu une quinzaine tout à fait complète. Ouais. Ça aurait donné un peu plus de relief à la chose.
Xavier, priorité au direct, parce qu'on va vivre ça avec toi, Eric Salio. Novak Djokovic et Carlos Alcaraz vont rentrer sur la Rod Laver Arena pour cette finale de légende que vous vivez seulement sur RMC, bien sûr.
J'ai des frissons. Vous savez qu'ils se sont croisés dans les couloirs, ils se sont pas regardés. Djokovic est passé devant, alors que d'habitude il y a des petits échanges, on se tape dans la main. Non, là,
peut-être ils sont pas vus.
Hein. C'est la guerre.
Ouais. Il y a vu qu'ils étaient là ou pas ?
Crois-moi.
La porte s'ouvre sur la Rod Laver Arena.
La porte s'ouvre. Là, c'est de l'émotion pure, là, parce que ils ont changé le protocole. Hein. Ouais. Ils ont changé le protocole. Maintenant, les deux joueurs ne rentrent pas l'un après l'autre. À un moment, il y a une bifurcation. C'est comme sur l'autoroute. L'un qui va à droite, l'autre qui va à gauche. Et chacun va rentrer d'un côté du court avec l'annonce du speaker. Et pour l'instant, c'est Novak Djokovic qui pénètre le premier dans ce couloir.
Quel regard il a, Djoko.
Ouais, c'est fantastique. Et sachez qu'il y a des extraits de victoires des plus grands champions. Et donc Djoko va entendre peut-être le speaker dire « Djokovic gagne ici !» C'est très bien foutu. Et donc Alcaraz est juste derrière. À un moment, ils vont se séparer. Voilà, ça y est. Il y en a un qui va à droite, l'autre qui va à gauche. Et maintenant, c'est l'entrée sur le court. On va savourer ça. Ça va être immense.
Ouais, avec Carlos Alcaraz qui va passer devant le visage de Novak Djokovic et de ses 10 titres à l'Open d'Australie. Tiens, prends-toi l'histoire dans la tête, Carlitos, avant de rentrer sur le terrain. Les deux garçons ont le visage fermé. On sent une concentration, on sent une conscience peut-être du moment qu'ils sont en train de vivre et qu'ils vont faire vivre au monde entier. C'est le monde entier qui écoute et regarde cette finale. On écoute le speaker de la Rod Laver Arena. Alcaraz Djokovic sur RMC.
From Spain, Carlos Alcaraz.
Le stade est plongé dans le noir, faut le préciser.
From Serbia, Novak Djokovic.
Il y a plus d'applaudissements pour Djoko.
Ouais.
Hein.
Il a gagné à l'applaudimètre.
Ouais.
Il a gagné. Et il passe devant la coupe, Novak Djokovic. La coupe était tout près de lui, par hasard.
Il n'a pas touché la coupe.
Non, il n'a pas le droit.
il n'a pas le droit, il peut le faire. Mais
alors là, je vais surveiller parce que est-ce qu'ils vont ouvrir le toit ? Voilà, ils ouvrent le toit. Donc le match se déroulera en diurne. C'est une bonne nouvelle, mais attention, il y a beaucoup de vent. Donc peut-être que ça va, la qualité va en pâtir, mais en tout cas les organisateurs ont décidé de jouer en outdoor, voilà. Et c'est bien.
Non mais là on a l'impression que c'est un vaisseau spatial qui est en train de s'ouvrir à la Rod Laver Arena. Ouais, ça donne une dimension
la
encore
scénographie
plus
des finales,
mystique à cette finale.
La scénographie des finales de Grand Chelem sont maintenant extraordinaires.
Alors Eric, Sarah, pour qu'on comprenne bien, parce que là les grands spécialistes ne le savent pas, mais on ouvre le toit, on va jouer donc en condition outdoor. Oui. Ça avantage dans les deux joueurs ou pas?
Oui, là, je sais pas trop.
Peut-être Djoko, non, un petit
Djoko
peu.
Djoko aurait bien aimé jouer en indoor.
Oui, je pense parce que c'est fort. Parce que Djoko est très fort en indoor et parce que Djoko, ouais, il gagne face à Sinner parce qu'il a eu un service, mais oui, au millimètre. Et donc, absolument, en fait, il a servi, il sert pas le plus fort, mais il est extrêmement précis. Et c'est ce qui a fait face à Sinner où il a réussi à mettre un trouble chez Sinner parce qu'il n'arrivait pas à lire. Sinner n'arrivait pas à lire le service de Djoko. Donc, quand tu as du vent, ouais, forcément, le vent fait que tu es obligé de prendre des précautions par rapport aux lignes. C'est-à-dire, tu prends plus de sécurité parce qu'à tout moment, ta balle peut prendre le vent. Donc, est-ce que ce petit détail va changer le service de Djoko.
Précisons que si jamais il y a une petite averse, ils vont fermer le toit et après, oui, on jouera indoor.
C'est-à-dire qu'il faut savoir que quand tu le refermes, tu ne peux pas le rouvrir même s'il s'arrête de pleuvoir.
Une fois que c'est fermé, c'est fermé.
Une fois que c'est fermé, c'est fermé.
Alcaraz, Djokovic, ils sont sur le terrain pour la grande finale de l'Open d'Australie. Oh là, on est comme des fous avant de vivre ensemble cette finale. Vivez ensemble, vivez la finale avec nous ce matin.
L'entrée, elle est déjà, c'est déjà un exploit. Hein.
Ah bah.
L'entrée, là, j'ai des poils de partout qui se dressent. C'était magnifique.
Ah, mais là, c'est du cinéma. Hein.
Ah, c'est magnifique.
Cinéma. Partagez cette finale avec nous sur WhatsApp au 06 12 424 424. Dites-nous comment vous êtes pendant toute cette finale qu'on va suivre en fil rouge. On la vit ensemble sur RMC ce matin. RMC, la seule radio française à vous faire vivre sur place cette finale en direct. Dans un instant, le zapping, on va aussi parler de l'OM. Ensuite, on va parler de rugby et également votre programme. Mais vous ne raterez rien des grands moments de cette finale entre Alcaraz et Djokovic. A tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules du sport.